Bonjour, avec cette séance, avec le docteur Jean-François Delfrézy, le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui va annoncer les deux récipiendaires du prix de recherche AIS et RNS, un prix de 3 000 $ américains qui reconnaît le travail des jeunes chercheurs qui ont fait preuve d'excellence dans le domaine des programmes de recherche sur la prévention et le traitement dans des contextes aux ressources limitées. Les auteurs du résumé gagnant doivent avoir moins de 35 ans et doivent être citoyens d'un pays à faible ou moyen revenu. De plus, la recherche éligible pour le prix doit être faite dans un pays en développement. Les jeunes auteurs récipiendaires de ce prix représentent les véritables espoirs dans les régions du monde les plus touchées par la maladie et contribueront de manière significative à l'éradication de la maladie. Alors, nous sommes très heureux de présenter ce prix spécial. Merci Hélène, bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Defroissy, le directeur de l'INRS. Le prix INRS a été sur la pathologie du VIH a été créé en 2003 par François Kinski et François Barry de Russie. Nous avons décidé de créer un nouveau prix en partenariat avec l'IS pour les jeunes scientifiques impliqués dans une recherche innovatrice sur le VIH dans les pays en développement, particulièrement dans les domaines de la prévention et du traitement. L'INRS est fortement impliqué dans la recherche dans les pays en développement. 20% de notre budget, 85 projets actifs sont financés par l'INRS et une exposition à Toronto à l'Alliance française sur ce sujet se tiendra au cours des 2 prochaines semaines. Les premiers prix de l'INRS ont été donnés en Europe l'an dernier et les gagnants pour ce prix à Toronto présentement sont Dorothy Balland de l'Ouganda et Dr. Damien Young du Vietnam. Le Dr. Balland est un médecin impliqué depuis 7 ans dans le programme de prévention et de soutien clinique de l'Ouganda. Le Dr. Diom est impliqué dans l'identification des risques posés par le VIH chez des jeunes travailleurs migratoires. Félicitations à vous deux. Merci beaucoup. C'est une excellente tradition et c'est très bien de voir l'avenir de la recherche sur le VIH et le SIDA représenté par ce prix. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les co-présidents de cette séance et je présenterai les co-présidents qui présenteront les conférenciers dans l'ordre de présentation. Nous allons nous en tenir strictement au temps alloué. Et nous devrons vider la salle immédiatement parce que nous avons également une séance très importante sur la thérapie antirétrovirale. Alors, on sera aussi rigide possible pour que tout le monde respecte l'horaire. Le premier coprésident sera M. Choke Alexander de la Fondation Gates. Choke a connu une carrière très prestigieuse dans le monde de la gestion des affaires. Il était responsable du bureau de Delhi du bureau de consultants McKinsey. C'est là que j'ai eu le plaisir de le connaître. À l'époque, on était à la Fondation Gates et on a développé un programme dont il est le directeur, le programme Abahan, qui vise à réduire la propagation du SIDA VIH en Inde. Il est le directeur de ce programme et c'est mon plaisir de l'accueillir ici parmi nous aujourd'hui. Il a été un chef de file dans le domaine de la prévention du VIH et du SIDA et son court séjour à son poste a été particulièrement remarquable. Ensuite, il regarde le Mark Haymaker, Isaac Haymaker, qui occupe le poste de coordinateur de la lutte contre les sida depuis 2003. Auparavant, il était le responsable du service du développement mondial au ministère des Affaires étrangères de Stockholm. Il a également servi dans différents postes en Afrique au cours des 10 dernières années. Et nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur le conseil d'administration du Fonds mondial. La prochaine coprésidente sera Liviana Calzavaro de l'Université de Toronto. Elle est professeure adjointe et directrice adjointe de l'Université de Toronto. Elle est également la coprésidente scientifique pour cette conférence et a vraiment fait preuve d'un excellent leadership à cet égard. La quatrième présidente sera le ministère de la Santé de la France, Xavier Bertrand, qui est ministère de la Santé de la France depuis juin 2005. C'est un honneur de l'avoir parmi nous, un honneur d'avoir tous nos distingués présidents qui présenteront maintenant les conférenciers dans l'ordre des présentations. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Et bienvenue à cette séance plénière sur la prévention de nouvelles approches et technologies. Nous avons un panel très intéressant et je suis certain que vous attendez avec impatience d'entendre leur présentation. J'ai le plaisir de présenter le premier conférencier de la journée, Cristina Pimenta du Brésil. Cristina Pimenta est une psychologue de formation à l'Université de Maryland. Elle a un diplôme de deuxième cycle en éducation de George Mason University et un diplôme de troisième cycle en santé collective de la Federal University ou de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Cristina a été directrice générale de l'Association interdisciplinaire brésilienne sur le sida depuis 2002 et a publié des articles sur la prévention au VIH-SIDA. Elle a beaucoup d'expérience dans le déploiement et le suivi des programmes de politique publique. Cristina a travaillé comme consultante internationale dans le domaine de la prévention du VIH-SIDA depuis 15 ans et elle a dirigé l'unité de la prévention du programme national brésilien sur le SIDA de 1996 à 2000 et ensuite de 2005 à 2006. Cristina. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, collègues et amis. Premièrement, j'aimerais remercier AIAS, les organisateurs de cette conférence, pour m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Et je veux également remercier l'équipe d'AVIA pour son soutien et surtout Roger Parker et Vianella Trento pour leur contribution à cette présentation. Je suis fier d'être ici aujourd'hui pour représenter les femmes latino-américaines dans la lutte contre le sida en tant que scientifique et militante. C'est notre 16e conférence internationale sur le sida et le 25e anniversaire du début de l'épidémie du sida. On peut évaluer nos réalisations, mais on doit également réfléchir aux défis auxquels on fait face. Il y a plusieurs paradoxes. D'après le rapport de 2006 de l'ONU SIDA sur l'épidémie mondiale du SIDA, nous avons fait des progrès pour contrôler l'épidémie dans certains pays, mais malheureusement, on note également un nombre croissant d'infections dans la plupart des pays. On estime qu'il y a 4,1 millions de nouvelles infections en 2005. Nous avons fait des progrès considérables dans le domaine du traitement du sida avec la thérapie antirétrovirale qui touche maintenant 1,3 million de personnes dans les pays à faible et moyen revenu. Et dans 21 pays, on offre un traitement à 50% des gens qui en ont besoin. Récemment, nous avons constaté qu'il est possible de mobiliser les ressources à l'échelle mondiale, mais même avec ces chiffres qui témoignent de nos efforts, on semble reculer en ce qui concerne la prévention. Les programmes de prévention ne réussissent pas à rejoindre les populations les plus vulnérables. Le même rapport montre que seulement 9% des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes reçoivent des services de prévention. Moins de 20% des utilisateurs de drogues injectables reçoivent des services de prévention contre le VIH. Seulement 9% des femmes enceintes ont été couvertes par des services pour empêcher les infections du VIH chez les enfants, mais nouveau. Et puis moins de 50% des jeunes à l'échelle mondiale ont une connaissance de moindrement significative sur le VIH et le sida. Ce sont des niveaux inacceptables de couverture et d'accès, et elles montrent que les obstacles à la prévention sont nombreux. Cette brève présentation examinera certains paradigmes. On traitera premièrement de la vulnérabilité sociale comme étant un facteur majeur qui détermine les contours de l'épidémie du sida ou les conditions économiques et l'absence de pouvoir, surtout l'âge et de relations entre les genres, déterminent une vulnérabilité sociale. Nous examinerons les différents facteurs qui structurent l'inégalité et qui conditionnent les possibilités de réduction des risques. Deuxièmement, nous explorons les stratégies et les approches qui peuvent être adoptées pour concevoir des programmes de prévention plus efficaces. Troisièmement, nous examinerons les obstacles importants qui existent de nature culturelle, matérielle et politique qui limitent l'accès aux moyens de protection et qui limitent l'efficacité des programmes de prévention. Après 25 ans d'expérience dans la conception des programmes et des réactions à l'épidémie, on sait aujourd'hui qu'il ne fait pas beaucoup de sens de parler des êtres humains et de leurs actions comme s'ils étaient des objets de recherche ou des modèles conceptuels dominent et dictent les actions. Il était possible de faire des progrès dans la promotion de la santé grâce à des discours linéaires et à des propositions concernant seulement la responsabilité individuelle, comme c'était souvent le cas au cours des années 90. Les dimensions multiples du VIH-SIDA sont connues depuis longtemps et on sait maintenant que nous avons besoin d'une approche collective à la prévention et à la promotion de la santé dans le cadre de la santé publique. Depuis le milieu des années 90, il y a une reconnaissance maintenant très répandue que la vulnérabilité sociale et l'exclusion est le principal facteur qui influence la croissance de cette épidémie à l'échelle mondiale. Il est devenu clair que les caractéristiques sociales et culturelles déterminent les manifestations de l'épidémie qui adoptent différents visages dans différentes communautés. C'est pourquoi il n'est plus possible de parler de la prévention du VIH-SIDA et du traitement en termes de simples déterminants linéaires. Sur la vulnérabilité au VIH-SIDA, les études dans différents domaines et dans différents contextes insistent sur le fait que le concept de vulnérabilité doit tenir compte des chances d'exposition à la maladie suite à une série d'aspects qui ne sont pas seulement individuels, mais également collectifs et contextuels. Et ces facteurs augmentent la susceptibilité à l'infection. Plusieurs auteurs recommandent une évaluation des composantes individuelles, collectives et sociales pour analyser les facteurs de vulnérabilité d'une population donnée. Et conséquemment, il faut adapter les contextes dans les campagnes dans leur contexte social et local. Les mauvaises conditions économiques et l'absence de pouvoir sont des déterminants de la vulnérabilité. Toutefois, aujourd'hui, on tente à parler de la vulnérabilité d'une manière essentialiste, comme c'était les circonstances naturelles des groupes de population, plutôt que le produit de leurs conditions économiques et de leur exclusion. Il est donc particulièrement important de voir les interrelations et les intersections de ces facteurs de vulnérabilité pour comprendre les synergies qui existent souvent entre formes d'inégalité, pour mieux comprendre la logique sociale de l'épidémie. La façon dont elle traverse les différentes lignes de faille d'inégalité qui existent dans différentes sociétés. Comme le docteur Performat et d'autres l'ont mentionné au milieu des années 90, la vulnérabilité spéciale des jeunes femmes, par exemple, a été soulignée à cause des effets détrimentaux des relations entre les sexes, qui fait qu'il est difficile pour les femmes de négocier des relations sexuelles protégées. Et ceci est un aspect particulièrement brutal dans le cas des jeunes femmes pauvres à cause des multiples formes d'inégalités auxquelles elles font face, souvent sans aucun contrôle sur les matières sexuelles de leurs relations, souffrant de discrimination, d'abandon et de violence ou de problèmes sexuels sexuels sont rarement soulevés auprès des membres de la famille ou de leurs partenaires. Mais les jeunes mâles ont également des taux élevés d'infection. La raison pour cette vulnérabilité de plus en plus grande ont été moins fréquemment explorées. Et les choses qui pourraient être faites pour concevoir et déployer des programmes plus efficaces pour réduire les risques ont été encore plus limitées que par rapport aux jeunes femmes. Il y a donc urgence de centrer des interventions sur les hommes, non seulement les adultes, mais également les jeunes et les enfants, où il faut traiter du problème de rapport entre les sexes et encourager des normes sociales qui favorisent l'égalité des sexes et la promotion des droits de la personne. Les facteurs de vulnérabilité et les comportements à risque existent dans un système intersexuel construit socialement et culturellement, résultat d'une inégalité structurelle qui conditionne les possibilités de réduction du risque de plusieurs manières. La reconnaissance du besoin d'intervenir de manière à ce qu'il soit possible pour les individus et les groupes de visualiser leur contexte socioculturel plus clairement et de transformer leur contexte et leur relation à ce contexte est perçu comme étant un élément clé dans la réduction du risque de la vulnérabilité de la maladie. C'est également vrai lorsque nous travaillons auprès des gens séropositifs. En plus des facteurs contextuels, surtout la pratique sexuelle et l'existence de discrimination et de stigmatisation autour de la sexualité du VIH-SIDA a de plus en plus été liée à un besoin d'insister sur une éducation qui insiste sur la responsabilisation et l'habilitation et l'autonomisation en créant un sens critique par rapport aux différents facteurs contextuels qui structurent le risque dans différents contextes. De telles approches visent à développer des stratégies d'autonomisation qui fait qu'il est possible pour les gens, surtout les très jeunes, de faire des choix dans leur vie et de pouvoir gérer le pouvoir dans leurs relations de façon à réduire leur vulnérabilité aux infections transmises sexuellement et au VIH. Les différences culturelles, la stigmatisation, la discrimination et les relations entre les sexes doivent être considérées comme étant un défi dans la plupart des pays. La principale tâche est de comprendre le traitement des interactions entre les sexes, les inégalités sociales et l'égalité et les réseaux. La stigmatisation est associée au VIH et au SIDA en fonction du sexe, de l'âge et dans l'orientation sexuelle est également examinée pour créer des stratégies concrètes et des actions qui vont réduire ou éliminer ces effets. Comme Parker et Eglinton l'ont mentionné dans leur travail, indépendamment de sa nature, la stigmatisation et la discrimination associées à la sexualité, au VIH-SIDA, à la tuberculose et au paludisme menacent la solidarité et la mobilisation sociale des conditions essentielles pour avoir une réponse durable et soutenue à l'épidémie du SIDA. Les priorités programmatiques devraient tenir compte du contexte social et économique des populations. Nous devons traiter les situations de violence physique de même que celles de la violence structurelle. Nous devons reconnaître la fine ligne de démarcation entre répondre aux besoins essentiels et puis aux besoins de la vie. Il faut tenir compte de la pauvreté, de la violence urbaine et du risque de l'infection. La ligne est devenue très très mince, surtout dans les classes plus pauvres, qui font face à des situations très sévères de manque d'alternatives, surtout les très jeunes. Mais il y a également des situations de violence sexuelle, de trafic des gens et de violence associée à l'intolérance par rapport à la diversité sexuelle dirigée contre les hommes et les femmes homosexuelles et les transsexuels et trans. Afin de surmonter les obstacles, la discussion ouverte sur la santé reproductive et sexuelle des gens et sur leurs pratiques de consommation de drogue, il faut avoir de nouveaux paradigmes de prévention. Nous devons sérieusement considérer la diversité des expériences sociales en soulignant l'influence de la classe, la diversité religieuse, les sentiments d'appartenance à un groupe social particulier et en plus des différentes expériences de vie à l'intérieur de ces groupes. Les comportements sexuels découlent d'une compréhension socialement déterminé de ce qui est approprié et de ce qu'on attend des hommes et des femmes. Dans le contexte actuel de l'épidémie du SIDA, où les relations sexuelles non protégées peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, ces attitudes et ces comportements sont d'une importance particulière. À cet égard, certaines recommandations pour la recherche sont les suivantes. Premièrement, examiner la jeunesse comme étant une phase de formation qui détermine les stratégies, qui détermine les relations de genre entre les gens lorsqu'ils seront adultes. Il faut se concentrer non pas seulement sur les besoins féminins et masculins, mais sur les besoins généraux. Il faut examiner l'organisation des relations entre les genres dans des cultures particulières afin de comprendre la violence entre les sexes et contribuer à élaborer des stratégies qui font que les relations deviennent plus équitables et fonctionnelles. Ensuite, une recherche multidisciplinaire devrait tenter de comprendre et de combattre le rôle de la structure violente, de la pauvreté, du racisme et d'autres formes d'exclusion sociale comme faisant partie des principaux facteurs de vulnérabilité au VIH-SIDA. Il faut donc une recherche multidisciplinaire qui combine les sciences économiques, sociales et médicales. Nous savons comment le virus est transmis et comment cette transmission peut être prévenu. On doit maintenant promouvoir des programmes de prévention basés sur de nouveaux paradigmes de prévention. Des paradigmes de prévention qui vont évoluer d'approches axées sur le comportement vers des approches individuelles, vers des approches collectives qui insistent sur les processus collectifs. Et il faut faire la promotion de réponses multisectorielles grâce à des alliances et à des partenariats et établir la co-responsabilité des actions en santé publique. Il faut des approches qui ont une perspective axée sur la santé et les droits de la personne. Il faut que les programmes respectent davantage la condition spécifique d'une personne et ses vulnérabilités particulières par rapport au VIH et d'autres MTS, et promouvoir un comportement non discriminatoire envers les gens qui sont séropositifs, et de même que la non-discrimination envers les gens sur la base de leur diversité sexuelle, de leur consommation de drogue ou autre. Il faut une approche qui combatte la violence contre les femmes et les enfants, contre les homosexuels et les transsexuels et les travailleurs du sexe. Il faut promouvoir une éducation communautaire et des partenariats inclusifs pour vraiment t'impliquer et offrir du soutien aux gens les plus touchés. Il faut des stratégies qui insistent sur les pratiques sociales, culturelles, religieuses et sexuelles des populations en fonction de l'âge et du genre et de manière inclusive. Il faut des approches axées sur des stratégies qui insistent sur la réflexion critique et l'habilitation collective afin de et offrir un accès très spécifique aux mesures qui ont été sont avérées efficaces. Il faut lier la prévention et le traitement et les soins dans le cadre d'une approche intégrale à la prévention où une approche de santé intégrée est un principe fondamental et la prévention, le traitement et le soin sont un continuum et non pas simplement des approches distinctes. Pour résumer, les paradigmes de prévention doivent être basés sur les principes des droits de la personne et de l'organisation communautaire. Ils doivent promouvoir des changements structurels pour surmonter la marginalisation sociale, la violence, la discrimination, de même que faire la promotion de pratiques de santé, des pratiques sexuelles plus sûres. La protection des droits de la personne doit être protégée par la législation internationale et par la mise en œuvre de politiques nationales et locales. Nous devrions commencer par nous concentrer sur les populations, des populations limitées, mais les services de prévention doivent être rendus disponibles et accessibles à tous. Dans le cas des épidémies généralisées, il faut des stratégies qui s'inscrivent dans un cadre large avec de nombreux types d'interventions pour les hommes et les femmes de tous les âges pour pouvoir rejoindre toutes les populations vulnérables et faire de l'éducation, de la prévention et les services de diagnostic disponibles pour tous. Il faut également cibler des services particuliers pour les plus vulnérables et à risque d'infection, particulièrement dans les secteurs appauvris de la population. Si on regarde les obstacles à la prévention, on sait que différents niveaux et différentes formes d'informations sur la transmission du VIH sont disponibles dans la plupart des pays, mais que les communications réelles, que les échanges directs sur les questions portant sur le sexe, la sexualité, la consommation de drogue et les relations entre les sexes n'ont pas lieu. Il faut augmenter nos efforts pour propager des connaissances, surtout auprès des jeunes, où c'est insuffisant. Des barrières importantes, des barrières politiques, matérielles, culturelles et politiques qui limitent l'accès aux besoins aux moyens de prévention, surtout en ce qui concerne l'équipement de réduction des torts et les condoms. C'est en plus, la réticence de la part des responsables d'exposer l'ampleur de leur épidémie de sida et puis des préjugés religieux et autres nuisent à notre travail. Les cadres législatifs et des politiques pour offrir un soutien social et une protection aux individus touchés et à leurs familles, pour surmonter la discrimination et la stigmatisation et pour avoir une réponse accélérée par rapport au sida VIH demeure faible. S'il y a un véritable engagement de la part de la communauté internationale, des responsables de la santé publique, des scientifiques, de la société civile organisée et des gouvernements pour combattre cette épidémie, on ne peut pas nous fermer les yeux et prétendre qu'il n'y a pas de moyens disponibles. Nous pouvons utiliser des méthodes qui ont fait leurs preuves. Premièrement, un dépistage sanguin par des méthodes médicales, la prophylaxie post-exposition, l'utilisation de condoms féminins pour la prévention, les interventions qui réduisent les effets des nocifs et puis des thérapies de substitution lorsque c'est disponible, le counseling et le traitement. De plus, il y a d'autres interventions biomédicales qui, une fois prouvé efficace, est rendu disponible pour leur utilisation pour le public, tels que les microbicides, les prophylaxies post-exposition, devraient être considérés comme étant des mesures préventives complémentaires pour contrer la prévention, mais non pas comme des solutions indépendantes ou absolues. Nous ne devons pas oublier que les interventions biomédicales sont également déterminées par le contexte. Il y a toutes sortes d'aspects socio-culturels et autres qui doivent être tenus en considération. En plus de l'information, il faut également trouver un moyen de motiver cette communauté. Une intervention médicale ne peut se dérouler dans un vide politique ou social. Je ne vise pas à minimiser le besoin d'accélérer la recherche pour le développement de vaccins préventifs et d'autres technologies de prévention et d'autres outils, mais on doit penser soigneusement à la tendance actuelle à la médicalisation de la prévention dans le discours international et dans la réaction à l'épidémie. La tendance actuelle à voir l'intervention biomédicale comme étant une solution magique, technologique à la prévention du VIH est pernicieuse. Ce qui est inquiétant, c'est lorsque toute l'attention qu'on porte vers ces solutions techniques rapides semble détourner l'attention des obstacles politiques et sociaux fondamentaux qui ont été érigés dernièrement, au cours des dernières années, par certaines agences et États, y compris en empêchant, par exemple, des moyens qui sont avérés être efficaces, tels que le condom et d'autres méthodes. Dans certains cas, ces positions doivent être politiquement dénoncées. Malheureusement, la thérapie antirétrovirale les plus efficaces aujourd'hui ne sont toujours pas une solution aux infections ni un remède au sida. Des millions de personnes continuent à mourir du sida. Les effets secondaires du traitement et les problèmes d'adhérence sont cumulatifs et devraient être inquiétants pour les gens qui suivent le traitement. La prévention demeure toujours la meilleure solution. Toute politique de prévention sérieuse, tout programme sérieux doit faire la promotion du condom pour la prévention de l'infection. Il faut avoir des méthodes réalistes qui doivent être appliquées par les gouvernements nationaux et locaux. Ceci doit être fait en impliquant la société civile, tout particulièrement la participation des populations les plus touchées. Ces efforts de prévention doivent être universellement accessibles d'ici 2010. En plus d'affronter l'oppression sociale et l'inégalité, notre réaction internationale au sida doit insister sur la disponibilité des condoms, des seringues stériles pour les consommateurs de drogues injectables, la protection des droits de la personne et l'accès aux services de traitement et de diagnostic, en plus de campagnes d'information et d'éducation tenant compte des différences sexuelles et de l'âge. Indépendamment de la dynamique de l'épidémie dans différents pays et des facteurs de vulnérabilité, il y a un besoin urgent de lier la prévention secondaire et primaire et les efforts de traitement du VIH-SIDA si on veut améliorer les efforts de prévention et sérieusement empêcher les nouvelles infections et contrôler l'épidémie. Nous devons affronter l'inégalité, l'oppression sociale et viser le développement humain complet. Dans un monde où certains d'entre nous vivons avec le VIH-SIDA, nous vivons tous avec le VIH-SIDA, et ce n'est que lorsqu'on se rend compte du lien entre sa prévention et le traitement, du lien qui nous lie tous ensemble dans le cadre d'une lutte plus large, d'une lutte pour la solidarité, que nous pourrons vraiment être capables de faire face au défi qui a été posé dans cette terrible épidémie. Merci.
Merci, Christina. Christina Pimenta nous a rappelé le besoin d'aborder le problème du VIH-SIDA d'un point de vue très large. Il y a le besoin des nouvelles technologies, mais aussi le besoin de se pencher sur l'environnement social et économique, où toute activité de prévention et de dépistage doivent avoir lieu. Cette présentation nous a donné une bonne idée, ou plutôt un cadre de discussion pour cette séance sur la prévention. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter notre seconde conférencière, Gita Ramji, de l'Afrique du Sud. Le titre de la conférence du professeur Ramji est « Microbicides et autres technologies de prévention ». Gita Ramji est directrice du South African Medical Research Council. Elle dirige le programme VIH-SIDA. Elle est aussi directrice de l'unité de recherche pour la prévention du sida. Professeur Ramji est impliqué dans plusieurs programmes de recherche internationaux et d'essais cliniques dans le domaine de la prévention du VIH-SIDA. Professeur Ramji est le principal enquêteur dans des essais cliniques de microbicides trois essais de phase 3, un essai de phase 2B, ainsi que des essais de clinique pour le diaphragme vaginal en phase 3. Elle et son équipe de 240 chercheurs, ainsi que l'équipe de soutien, étaient engagés dans des essais sur 5 des 6 produits microbicides qui sont arrivés à une étape de développement avancée. Le professeur Ramji a déjà servi comme membre du comité et a fait aussi l'étude des sommaires qui ont été présentés à la conférence internationale au passé. Et elle est aussi présidente pour la conférence de 2007 en Australie. Le professeur Ramji s'intéresse surtout à la prévention du VIH-SIDA chez les femmes. Et particulièrement avec certaines options comme les microbicides. Le professeur Ramji a reçu son doctorat de l'Université du Natal en Afrique du Sud en 1994 et a reçu une position de professeur distingué, professeur invité de l'Université Tidal en Inde. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité dans le cadre de cette très importante conférence. 25 ans après le début de cette épidémie, on voit encore un très grand nombre d'infections VIH-SIDA chaque année. Il y a plusieurs façons d'aborder la prévention. Bon, les changements de comportement, l'abstinence, la fidélité et puis l'utilisation du condom pour les hommes et pour les femmes. Il y a aussi du counseling et le traitement des infections sexuellement transmises. Mais les bonnes nouvelles, c'est que plusieurs nouvelles technologies très prometteuses sont maintenant à l'étape des essais cliniques avancés. Il y a des microbicides vaginaux, des barrières cervicales comme les diaphragmes vaginaux, la circoncision chez les hommes, la prophylaxie à l'exposition avant et après, et la thérapie suppressive HSV2 et le vaccin, bien sûr, qui reste le Saint Graal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de toutes les technologies soulignées en jaune sur ma diapositive. J'aimerais vous parler de la théorie qui sous-tend la technologie, l'état des études cliniques en ce moment et certains des défis auxquels on doit faire face dans le cadre de ces études cliniques en matière de prévention. Bill et Melinda Gates a fait allusion à l'urgent besoin de nouvelles méthodes de prévention pour le VIH-SIDA, surtout chez les femmes. Mais les microbicides, justement, vont offrir ce genre de prévention, de pouvoir. Les femmes auront le pouvoir de réduire ou éliminer cette infection. Il s'agit de produits chimiques en forme de gel qui peuvent être appliqués dans le vagin pour empêcher l'infection VIH. C'est quelque chose qui est utilisé par la femme, donc la femme pourra ou pas informer son partenaire à savoir si elle utilise de tels microbicides ou non. Les éléments de preuve médicale sont assez convaincants en ce qui a trait aux microbicides pour prévenir le VIH. Nous avons fait des études sur les populations de singes. Il y a deux études animales. Et la preuve est convaincante à l'effet que les microbicides pourraient très bien fonctionner. C'est fort possible. Comment est-ce que ça fonctionne au juste, ces microbicides? Il y a plusieurs mécanismes possibles pour prévenir l'infection VIH. Tout d'abord, les microbicides peuvent se faire une barrière physique entre le VIH et les cellules ciblées. Ils pourraient maintenir une microflore normale dans le vagin. Ils pourraient prévenir les infections sexuellement transmises et aussi faire en sorte que le virus ne puisse pas infecter. Et dernièrement aussi, on a fait des tests d'inhibiteurs de fusion qui empêchent le virus de s'attacher aux cellules cibles dans le vagin. Et aussi, plus récemment, et c'est un concept très intéressant, c'est l'utilisation d'antirétroviraux qui pourraient servir de microbicides pour empêcher l'infection. Bon, qu'est-ce qu'on aimerait comme microbicide idéalement? Il faudrait qu'il ait une activité, ce microbicide, une activité très très forte en termes de anti-VIH, sans être toxique, et on veut quelque chose ici qui peut agir contre les autres MTS. Et on veut que la femme ait l'option d'avoir un enfant sans infection. Donc, ça prend un microbicide contraceptif ou non contraceptif. Les produits actuels qui sont à l'essai, ce sont des produits de première génération. Bon, les voici. Il y a le acid buffer, les inhibiteurs d'entrée et les surfactants. Ils ont certaines propriétés contraceptives, ces produits. Ils sont spécifiques non pas au... ils sont spécifiques au VIH, mais pas très spécifiques au VIH. Ils n'ont pas d'absorption systémique, ce qui est une bonne chose. Et la majorité sont dépendent du coït. Donc, les produits doivent être insérés dans le vagin avant les rapports sexuels. Mais la nouvelle génération de microbicides, qui sont dans les premières phases d'essai en ce moment, ce sont le tenosynovir et le TMC-120 qui contiennent ou limitent le ARV. Ils sont plus spécifiques pour le VIH. Peut-être qu'ils seront absorbés par le système de la personne ou pas, ça reste à voir. Et on ne sait pas à quel point ça va dépendre du coït, coital dependency. Comment ça fonctionne les microbicides? Voici le développement. Il y a beaucoup de produits à l'étape de la conception précoce, si on veut, ou dans les premières phases de conception. Il y a une trentaine de candidats, de produits candidats en développement préclinique, 14 qui sont dans la phase des premiers essais et 5 qui sont maintenant rendus aux essais à grande échelle. Il n'y a pas beaucoup de produits qui franchissent les 3 étapes. Donc, ça prend beaucoup de travail pour passer du concept du produit pour en arriver à des essais à grande échelle pour vérifier l'efficacité. Voici une carte géographique des endroits où se trouvent les essais en clinique en phase 2B et 3. La plupart des essais s'effectuent, comme vous pouvez l'imaginer, dans les zones sous-sahariennes de l'Afrique où les taux d'infection VIH sont les plus élevés chez les femmes. C'est aussi la région où les microbicides seront les plus nécessaires. Et les produits en ce moment qui sont à l'essai sont Caraguard, la sulfate de cellulose, deux concentrations de Pro 2000, le Pro 2000 comparé au Buffer Gel et le C31G dans un dernier essai. Comme on peut voir ici, ce sont les essais, bon, par exemple, sulfate de cellulose se trouve en Afrique occidentale. Le Caraguard était laissé en Afrique du Sud. Le Pro 2000 et le Buffer Gel à 0,5% est en Afrique du Sud aussi. Et le C31G se trouve ici en Afrique occidentale aussi. En ce qui est très l'état de ces essais cliniques, où en sommes-nous? Comme on peut voir ici, la colonne de gauche, la plupart de ces essais sont financés par des argents du secteur public ainsi que des donations philanthropiques. Le secteur privé n'a pas participé au financement. Voici les essais et voici l'état de recrutement pour chaque étude. Et vous voyez ici la prévalence de VIH chez les femmes que nous recrutons pour les études vont de 9% en Afrique occidentale pour passer à environ 55% en Afrique du Sud. Et ces données-là de prévalence en particulier mettent l'accent sur le besoin d'urgent qu'ont ces femmes d'avoir un produit microbicide qu'elles-mêmes peuvent utiliser de leur propre initiative. Les bonnes nouvelles, cependant, c'est qu'il y a plusieurs de ces essais qui sont passablement avancés et les premiers résultats devraient être publiés vers le début de 2007. Donc, ce ne sera pas trop long avant qu'on puisse vérifier si au moins la première génération de microbicides fonctionne ou pas. J'ai un problème avec l'ordi. Oui, merci. Alors, quels sont les derniers développements? Bon, il y a des microbicides qui contiennent des antirétroviraux qui vont être plus spécifiques, qui vont durer plus longtemps. Mais pour ce qui est des gels utilisés dans le vagin, nous travaillons maintenant vers l'obtention d'une autre formule qui va être un anneau vaginal Et ici, on croit que potentiellement, ça pourrait réduire les problèmes de conformité et que ça va faciliter l'utilisation et ça pourrait rester logé dans le vagin sur une période de plus de 30 jours. C'est seulement que l'étude reste dans ses premières phases pour l'instant. On essaie de vérifier l'acceptabilité par le biais d'études en cours en Afrique du Sud. Quels sont les défis avec les microbicides? Bon, nous n'avons pas de marqueur biologique de protection évident ou clairement établi. Donc, tous les produits doivent avoir comme objectif final le VIH. On peut seulement vérifier si le produit marche ou non, si on peut mesurer la conformité à l'ordonnance. Mais bien sûr, ce sont les patients qui nous disent si oui ou non ils utilisent le produit de façon indiquée par le médecin traitant. Donc, nous dépendons de données qui viennent des patients. Il y a beaucoup de problèmes sur le terrain qui compliquent les essais. Bon, la grossesse, le taux de rétention, l'incidence de VIH, le coût. Pour ce qui est de la grossesse, ça cause certaines complications. Dans les essais, en ce moment, nous avons une incidence de grossesse très élevée, ce qui veut dire que les femmes qui participent aux essais cliniques doivent cesser d'utiliser le produit. Et ceci a un grand impact sur la qualité statistique des études pour démontrer l'efficacité du produit. Donc, beaucoup d'entre nous qui travaillons sur le terrain, nous utilisons des stratégies comme l'introduction. Les taux de rétention aussi doivent être élevés pour prouver l'efficacité d'un produit à l'essai. Présentement, dans nos essais, on vise un taux de rétention de 90-95%, ce qui est énorme lorsqu'on fait ces essais sur le terrain dans les pays en voie de développement. Les conditions sont vraiment pas optimales. C'est difficile de retenir la cohorte de patients à l'étude. Et bien sûr, ça a un impact négatif sur la qualité de l'essai si on perd une bonne part de la cohorte. L'incidence de VIH aussi et le coût peut avoir un impact. Ce qui s'est produit, c'est que l'incidence VIH était plus basse que prévu. On avait prédit. Bon, il y avait pas beaucoup d'études de cohortes entreprises pour mesurer l'incidence. Et quand l'incidence est moins forte, ça veut dire qu'il faut reconcevoir l'essai, recruter plus de femmes, et ceci comporte des coûts additionnels importants. Pour ce qui est de l'aspect déontologique aussi, et puis les obligations en termes de soins, ben, la demande, le problème est énorme dans les pays où nous faisons nos essais. Donc, les soins restent aussi importants. Et nous devons savoir quelles sont les qualités de soins offertes à ces femmes. Nous qui travaillons sur le terrain avons mis au point des stratégies où nous facilitons l'accès aux soins pour les femmes tout au long des phases de l'essai. Mais ça ne peut se faire qu'en partenariat avec ceux qui offrent ces services sur le terrain et avec le gouvernement du pays où on travaille. Dans tous les essais dont je vous parle aujourd'hui, ce sont les défis ou les problèmes que nous rencontrons lorsqu'il s'agit de mettre à l'essai ces microbicides sur le terrain. J'aimerais mentionner la stratégie de développement de microbicides. Des donateurs se sont réunis pour mettre au point cette stratégie pour les microbicides. Et le but, c'est de faire un inventaire de ce qui se passe sur le terrain en ce moment, identifier les lacunes et les manquements. Et je pense que c'est important comme étape, parce qu'il faut s'assurer que le développement se fait de façon cohérente pour que ces produits soient tous vérifiés dans des essais cliniques. Et l'autre technologie dont j'aimerais vous parler pour la prévention, c'est la barrière cervicale. Encore une fois, c'est une méthode utilisée et initiée par les femmes. C'est un contraceptif acceptable, efficace, sécuritaire, qui a fait ses preuves. Mais le tract génital supérieur est peut-être plus susceptible à l'infection VIH. Si on recouvre le cervix, ça peut baisser les taux d'infection ou la probabilité d'infection. Et les autres maladies sexuellement transmises aussi. Bon, qu'en est-il maintenant des essais pour ce qui est des barrières vaginales? Présentement, il y a un essai lancé par la fondation des Gates. C'est une méthode qui fait l'étude du diaphragme. Voici le diaphragme qui est utilisé avec les gels qui l'accompagnent. Ici, l'échantillon est de 5045 personnes et l'étude a lieu à Durban, Johannesburg et Harare. La prévalence VIH encore, voyez-vous, c'est un chiffre très élevé. Il s'agit de 32% dans ces pays. Le recrutement est complet maintenant. Nous avons la cohorte au complet et l'étude va se terminer le mois prochain et nous espérons pouvoir publier nos résultats vers le mois de juin 2007. Alors, c'est pour très bientôt. La circoncision masculine pour prévenir le VIH. Bon, c'est un sujet de grand intérêt. Les données biologiques nous démontrent que les hommes circoncis présentent un risque moindre d'infection VIH. Et ceci se produit puisqu'on enlève du prépuce les cellules ciblées par le VIH. Et la kératanisation de la surface de la peau aussi, ça augmente un séchage rapide et ça réduit la possibilité d'infection des maladies transmises sexuellement. Donc, il y a une moindre prévalence VIH chez les hommes circoncis. Et la méta-analyse nous laisse entendre que dans plusieurs pays africains, lorsque les hommes étaient circoncis, le risque de VIH était plus faible. Où en sommes-nous pour les essais cliniques en termes de circoncision? Il y a eu un essai en Afrique du Sud et on a vu que dans l'essai randomisé, les hommes qui avaient été circoncis présentaient un risque moindre d'infection VIH, moindre de 60%. Mais ces données devront être confirmées par d'autres essais cliniques. Il y en a trois en cours déjà, dont deux en Ouganda et un au Kenya. Et voici l'état du recrutement. Et en 2007-2008, ça va être une très bonne année pour la prévention parce que c'est à ce moment-là qu'on va tirer ça au clair, à savoir quels seront les résultats de ces quatre études, ou ces trois études plutôt. Bon, quels sont les problèmes d'innocuité ou de pour ce qui est de la circoncision et à quel point est-ce que c'est acceptable sur le plan religieux et culturel dans les collectivités où nous lançons ces études? Et le plus grand défi, c'est que comment allons-nous faire en sorte qu'une telle intervention, même si les conclusions, les données scientifiques sont concluantes, comment allons-nous pouvoir mettre ça en œuvre, en chasser dans une politique publique? Il y a aussi la prophylaxie avant l'exposition, qui présente un potentiel pour une prévention VIH. On a vu ça que c'était vrai avec le paludisme, par exemple. Les produits candidats sont le tenofovir et le truvada. Ces produits présentent un bon profil d'innocuité lorsqu'il s'agit de traiter le sida. Et ce qui est plus important, c'est que c'est une posologie quotidienne. Bon, où en sommes-nous? Il y a trois études en cours parrainées par le CDC en Thaïlande, aux États-Unis et au Botswana. Et si ces études seront terminées en 2008. Le Truvada maintenant est à l'étude au Pérou. En fait, l'étude va commencer bientôt. Elle devrait durer une vingtaine de mois. Et il y a aussi la Fondation Gates qui a lancé une étude sur le ténophobie par voie orale en Afrique occidentale, au Ghana, Cameroun et au Nigeria. L'étude est terminée. Les résultats seront présentés à une des séances lors de cette conférence. Bon, quels sont les problèmes, les défis que nous rencontrons pour ce qui est du PREP? Quel est le niveau d'adhérence nécessaire, de conformité à la posologie? Comment allons-nous mesurer la posologie et s'assurer que les gens la prennent comme il se doit? Comment allons-nous surveiller la cohorte pour les événements adverses? Et est-ce que c'est acceptable comme médicament pour les gens en santé? Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens qui refusent d'utiliser les condoms? Pour ce qui est maintenant du HSV2, thérapie suppressive pour prévenir le VIH, Nous savons de beaucoup d'études, nous avons appris que HSV2 augmente le risque d'acquisition VIH. Le risque de transmission est augmenté aussi. Et plusieurs études nous démontrent que l'HSV2 est associé avec une charge virale VIH plus élevée. La théorie ici veut que si la HSV2 fait en sorte que les gens, fait que le VIH est plus infectieux, si on traite les gens, on peut réduire l'incidence de VIH.
Pourquoi nous devons introduire le HSVT comme thérapie suppressive, comme traitement suppressif? Alors, les essais cliniques par rapport à HSV2, cet essai financé par le NIH et l'autre financé par la Fondation Gates, c'est comme vous pouvez le voir, le premier essai mesure la susceptibilité et l'autre le caractère infectieux. Donc, le premier essai est sur 9 sites. L'inscription est faite et les résultats devraient être à la fin 2007. Voilà, pour l'autre, nous avons 14 sites en Afrique, 70% de l'inscription sont faits et nous aurons les résultats fin 2008. Alors, quels sont les défis un peu similaires à tous les essais cliniques que j'ai mentionnés auparavant, l'observance. Si nous avons à avoir des traitements permanents ou épisodiques et par rapport à l'émergence, je voudrais un petit peu parler de l'impact de ces technologies sur la prévention du VIH, les microbicides. La circoncision sera beaucoup d'impact sur la transmission. Alors, quels sont les défis futur pour la prévention du VIH? Je n'ai plus de temps maintenant, je ne vais pas vous présenter toutes. Donc il y a des billes de santé publique, les mises en œuvre et plus de façon plus importante la recherche à venir. Nous, scientifiques, devrons collaborer pour avoir les meilleurs produits poussés vers l'avant afin d'avoir des produits efficaces à l'avenir. So, mesdames et messieurs, pour récapituler, j'ai mentionné qu'il y a des technologies existantes de prévention et nous allons ajouter à cette combinaison de nouvelles technologies qui sont peut-être prometteurs pour la prévention. Cela ne peut être fait que si nous avons par une utilisation synergique et des méthodes de barrière, des comportements et ainsi de suite. Il faut l'engagement de la communauté et du leadership à tous les niveaux. Il faut du leadership à tous les niveaux pour mettre en œuvre toutes ces stratégies synergiques. Il y a quelques années, j'ai discuté avec un expert du sida à Durban. Je lui ai posé des questions sur la prévention du VIH. Et il m'a dit la prévention du VIH est aussi simple que ABC. Et nous savons ce que veut dire ABC. Mais mesdames et messieurs, je suis devant vous aujourd'hui et j'aimerais croire que la prévention du VIH sera plus bientôt que ABC. Nous pourrons ajouter C pour circoncision, D pour diaphragme, E pour exposition et prophylaxie, F pour microbicide féminin, G pour tract génital, H pour traitement suppressif HSV2 et I pour immunité. Merci. J'aimerais remercier tous les gens listés sur la diapositive pour leur contribution aux données que j'ai présentées, mais j'aimerais particulièrement remercier une personne qui m'a aidé à finaliser cette diapositive. Merci. Ladies and gentlemen, I'd like to reach a message from the President of the French Republic. Ladies and gentlemen, 25 years after AIDS first appeared,
continue de s'étendre. La majorité des 5 millions de nouveaux cas enregistrés l'an dernier l'a été dans le monde en développement et en particulier l'Afrique qui continue à payer le lourd tribut de ce fléau. L'épidémie apparaît plus que jamais comme l'une des faces dramatiques de la mondialisation. Une mondialisation source d'opportunités et de prospérité, mais qui n'a cependant pas permis à des centaines de millions de femmes et d'hommes de sortir de la pauvreté, de la faim, de l'ignorance et de la maladie. Contre le sida, la communauté internationale a pris deux engagements. Assurer, d'ici 2010, l'accès au traitement à tous ceux qui en ont besoin. Et inverser, d'ici 2015, la progression de l'épidémie. Que la majorité des malades soient au sud, alors que l'accès aux moyens de prévention et au traitement reste très largement au nord, est moralement inacceptable. La communauté internationale se doit de tenir ses engagements. Pour y parvenir, il faut relever quatre défis. Le premier est celui des ressources. Les moyens importants, consentis depuis vos réunions précédentes de Barcelone et de Bangkok, demeurent insuffisants au regard des besoins estimés par l'ONU SIDA. Accroître les ressources passe d'abord par une augmentation de l'aide publique au développement et de la part qui en est dévolue à la santé. La France, pour ce qui la concerne, portera en 2007 à 300 millions d'euros sa contribution au Fonds mondial, devenu le premier instrument multilatéral de financement de la prévention et du traitement du sida, de la tuberculose et du paludisme dans le monde en développement. Accroître les ressources requiert également la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, indexés sur la croissance de la richesse mondiale, afin de garantir des moyens additionnels et pérennes. Tel est l'objectif de la contribution de solidarité sur les billets d'avion, entrée en vigueur en France au 1er juillet de cette année, et dont l'essentiel du produit sera affecté au projet United, facilité internationale d'achat de médicaments, à laquelle le Brésil, le Chili, la Norvège et le Royaume-Uni ont déjà accepté de contribuer. En solvabilisant la demande à long terme et en apportant ainsi aux industriels du médicament la visibilité dont ils ont besoin, ce mécanisme incitera de nouveaux producteurs à venir sur le marché et permettra aussi de consolider la baisse des prix. Les médicaments génériques ont joué un rôle déterminant dans cette baisse. La communauté internationale s'est engagée à en faciliter l'accès. Aussi, interdisons-nous dès lors de demander aux pays pauvres de renoncer dans des accords bilatéraux à ce que les accords de l'OMC ont pu leur apporter. Le deuxième défi est celui de l'accès universel à la prévention et au traitement. Les programmes mis en place dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine montrent clairement que l'accès au traitement à grande échelle dans le monde en développement est possible, que l'efficacité des traitements y est la même que celle que nous connaissons dans les pays industrialisés et que traiter les malades du sida concourt aussi au développement économique des pays pauvres. Véritablement changer d'échelle implique d'aider les pays du Sud à renforcer leur système de santé et à faire face aussi à la crise aiguë des ressources humaines à laquelle ils sont confrontés. Dans la plupart des pays du Sud, le coût des soins reste à la charge des personnes malades et fait basculer chaque année des millions de familles dans la pauvreté. Sur une proposition de la France, le sommet de Saint-Pétersbourg a décidé de lancer une réflexion internationale sur des mécanismes d'assurance maladie dans les pays les plus pauvres. Le troisième défi est celui du respect des droits de l'homme, de la lutte contre le déni et la discrimination. Nul ne saurait être exclu de l'accès à la prévention et aux soins en raison de son mode de vie ou de son appartenance à tel ou tel groupe de population. La France refuse toute tentative d'établir des discriminations à cet égard qui seraient contraires aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Et je veux saluer le courage des femmes et des hommes qui, partout dans le monde, luttent pour la dignité et les droits des personnes malades. Le quatrième défi, au cœur de vos débats, est celui de la recherche. Effort qu'il faut poursuivre et approfondir dans tous les domaines pertinents à l'épidémie. Je pense en premier lieu à la recherche sur le vaccin qui requiert de nouveaux modes de coopération internationale. La France, avec ses partenaires européens, entend prendre toute cette part à cette mobilisation. Mesdames et messieurs, la lutte contre le sida est un combat pour la vie, pour la justice, pour la dignité humaine et le développement. Vos succès collectifs soulève l'espérance. Ensemble, faisons qu'elle se réalise. Je vous remercie.
Ladies and gentlemen, I have the...
présenter ma concitoyenne, le professeur Françoise Barré-Sinoussi. Elle est le directeur de l'unité biologique des rétrovirus à l'Institut Pasteur de Paris. Engagée dans la recherche sur les rétrovirus depuis le début des années 70, elle est le premier auteur, en 1983, d'une publication rapportant la découverte d'un rétrovirus appelé plus tard HIV. Reconnue pour ses contributions dans la recherche depuis les années 80, elle est l'auteur ou le co-auteur de nombreuses publications ou articles sur le sujet et elle est membre de nombreux comités scientifiques en France et dans d'autres pays. Elle est aussi fortement engagée dans la promotion d'une intégration de la recherche sur le VIH-SIDA avec les actions dans les pays du Sud. Françoise, je vous en prie.
Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les Présidents de séance, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. And I will move now to English.
Pass now to English. Alors, Minister, Madame Co-Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont invité pour me faire un discours sur le VIH, sur la recherche du VIH-SIDA. Ce n'est pas un travail facile en fait, mais j'aimerais faire et de partager avec moi ma propre point de vue d'une recherche à l'extérieur du vaccin HIV-AIDS, VIH-SIDA. Depuis que l'identification du VIH-SIDA de la maladie, il y a 25 ans, laissez-moi remercier les organisateurs et les collègues qui m'ont fourni un petit peu une formation, Monson, Michel Kalachkin, pour l'entreprise Vaccin Mondial, et Yves Lévy et Diana Rice, et Frédéric Tanguy à l'Institut Pasteur. La dynamique du VIH, de la recherche sur le vaccin, peut être considérée comme un des rêves successifs et des cauchemars résumés sur la diapositive qui suit. Alors, ces rêves et cauchemars successifs que je montre résument en fait tous les essais sur le vaccin qui ont été faits avec beaucoup d'échecs et des succès très limités. Cette histoire commence en 1987 avec le premier essai de phase 1. Depuis lors, plus que 85 essais de phase 3 ont été effectués avec plus de 30 candidats et plus de 30 essais sont toujours en cours. Cela montre que les candidats sont sécurs, sont sûrs, sont au moins immunogènes, partiellement. En 2003, nous avons les premiers essais d'efficacité ont été rapportés, prouvant que le recombinant était un candidat et que ce candidat ne protégeait pas contre l'infection et ne réduisait pas la réplication. Depuis Bangkok 2004, deux autres essais d'efficacité continuent avec des données qui devraient venir en 2008, en 2009 et de nouveaux essais qui vont être faits en fonction de quelques données encourageantes d'essais de phase 1. En plus, de nouveaux vaccins candidats ont été conçus. Enfin, sinon, analysons la stratégie du vaccin qui a été utilisée. Jusque-là, ils sont en fait tout à fait traditionnels avec des fluctuations en cause des quelques dernières années en termes de réponse immunitaire, parce que nous essayons de bloquer l'infection et par éliminer les cellules infectées et pour augmenter la réponse immunitaire. Cette diapositive que je montre ici est en fait présente le pourcentage de publications rapportant la neutralisation des anticorps dans un intervalle de 5 ans entre 83, de 20 ans, entre 2 et 2006. Comme vous pouvez le voir, les chercheurs de vaccins ont essayé d'induire la neutralisation, la réponse des anticorps, et selon les résultats, on a travaillé d'abord sur le renfoncement et l'élargissement de la réponse des cellules T. Enfin, d'induire la réponse avec un nouvel intérêt récemment sur l'immunité des médiateurs immunitaires. En fait, il faut reconnaître que toutes ces approches peuvent être considérées comme tout à fait un petit peu la même chose, en changeant seulement les candidats pour essayer d'accomplir l'objectif en termes de réponse que l'on désire. Alors, les candidats principaux essaient d'obtenir particulièrement les protéines recombinantes pour induire la réponse immunitaire. Sont utilisés pour proxvirus, adénovirus, MIS et aussi l'ADN, ou une immunisation des peptides unitaires comme l'est la stratégie des lipopeptides utilisée par notre agence nationale contre le sida. La stratégie principale de Boustin pour induire particulièrement à la fois la réponse des cellules B et T est toujours considérée. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des données encourageantes en termes d'immunogénicité sont encourageantes. Et il faut conduire à lancer de nouveaux essais sur les vaccins. Cependant, nous devons reconnaître que jusqu'à maintenant, la conception d'un vaccin, d'un candidat, a été principalement empirique. Et nous n'avons pas vraiment de justification scientifique suffisante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas nous devons améliorer notre connaissance sur la façon dont les vaccins fonctionnent. En fait, 12 des 16 des vaccins antiviraux efficaces et approuvés sont contre les infections aiguës, mais pas contre les infections persistantes. Seulement 4 de plus. Les virus à ADN, comme le vaccin contre l'infection de papilloma, comment ils fonctionnent? Nous ne pouvons répondre que partiellement à ces questions, et si nous devons améliorer notre connaissance sur le mécanisme de protection par lesquels ces vaccins fonctionnent, en plus de savoir, il faut avoir une corrélation par rapport à la protection. La première réalité est parmi les nous voulons vraiment résumer la réalité. La deuxième carence est le manque de nouveaux concepts dérivés de l'immunologie fondamentale. Le troisième est en fait lié au deuxième carence, c'est la connaissance insuffisante des discours complexes entre les composants, entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ce domaine avance dans l'avant, et je suis convaincu que la recherche sur le VIH-SIDA va bénéficier beaucoup des progrès récents en immunologie. Alors, quatrième carence scientifique est représentée par les défis scientifiques qui sont présentés dans les deux diapositives suivantes. Bien sûr, la diversité génétique du VIH, comme est illustré par cette carte présentée l'an dernier à Rio par Francis McKinchon, c'est certainement un défi clé pour les formes recombinantes des virus qui circulent dans le monde entier. Mais nous devons nous rappeler que ce n'est pas le seul problème. Nous devons aussi garder à l'esprit que ces virus infectent les cellules fonctionnelles de notre défense immunitaire, comme bien sûr les CD4, les lymphocytes, mais aussi les macrophages et les cellules dendritiques, et ces challenges font répliquer le virus de cellule à cellule qui devrait être protégé par intégration. L'intégration du génome du VEGF à toutes les cellules et la capacité de ces virus à persister sont dans les sites immunologiques, y compris les mucoses, sont bien sûr des problèmes importants. Comme défi représentant par les fonctions altérées des cellules immunitaires, infectées ou non, médiatées par le VIH et l'induction très rapide en réponse au VIH, en contraste avec la réponse lente à l'immunité spécifique. Finalement, la limitation dans les modèles animaux sont également un problème qui contribue à retarder les progrès de la recherche pour un vaccin du VIH. Il est clair, pour surmonter ces défis clés, une recherche fondamentale en immunologie et sur la pathogenèse du VIH est nécessaire de façon urgente. En dépit de ces défis complexes et de cette réalité complexe, il y a de l'espoir pour l'avenir. Le premier espoir est en fait dans les progrès fantastiques récents de notre connaissance de la pathogenèse du VIH, en particulier des événements précoces qui se passent juste après l'infection. Parmi ceux-là, l'infection massive de la déplétion des CD4, la forte corrélation entre l'activation des cellules T et de la progression du maladie, et le contrôle inné de l'infection VIH doit être considéré. Tout cela a des applications très sérieuses dans la recherche pour un vaccin contre le VIH. Comme vous pouvez voir dans ces diapositives, nous apprenons beaucoup des patients eux-mêmes qui vivent avec le VIH et aussi par la faible proportion de patients que l'on appelle des contrôleurs illicites du VIH ou les non-progresseurs à long terme et les progresseurs lents d'un vaccin. Mais notre compréhension du pourquoi ces patients ne développent pas vraiment une bonne réponse, alors, les primates africains, les chinches, les apogées, les manqués sont aussi des modèles très utiles, en particulier pour avoir des informations sur les déterminants et les mécanismes de protection contre la progression de la maladie, puisqu'ils ne développent pas le sida. Par exemple, les singes verts de Mangabi ne montrent pas de signes d'activation généralisée des cellules T, et des rapports montrent une réponse très précoce récemment, mon propre laboratoire et nos collaborateurs ont découvert que les singes verts en réponse à l'infection SIV est en faveur d'un profil anti-inflammatoire avec des signaux précoces TTH, bêta, FOXP3, interphon alpha et même récemment SMAD4, qui peut être des marqueurs importants pour la protection contre l'évolution de la maladie à l'avenir. Une hypothèse que nous devons explorer plus avant et sur la diapositive suivante, cette hypothèse est que le VIH ou les terminants du VIH peuvent être altérés, les premiers signaux qui impliquent un discours entre trois intervenants majeurs de la réponse immunitaire spécifique, les cellules, les NK, les cellules dendritiques et les cellules T. ça peut entraîner une activation généralisée des cellules T liées à une progression de maladie. Encore une fois, l'immunité peut jouer un rôle majeur dans le progrès. Enfin, la diapositive montre que nous avons déjà des preuves que la réponse des cellules NK peut être impliquée. Par exemple, une expansion des nôtres de rôle des cellules NK dans la prévention de la progression de maladies. C'est rapporté dans les infections non pathogènes. En plus, Patrice de Brislav a rapporté que le motif stimulait l'expression des cellules NDK sur les CD4, sur les cellules CDK, à partir de patients infectés qui, conséquemment, peut avoir un rôle critique pour la dépression des cellules CD4. Plusieurs rapports montrent une modulation du répertoire des cellules NK dans l'infection VIH, l'impact de tout le polymorphisme génétique sur la réponse immunitaire. L'étude de Daniel Scott, tout le monde en collaboration avec Pascal Paul et des collègues vietnamiens aussi fournissent des preuves que les cellules NK peuvent jouer un rôle pendant la protection contre l'infection VIH. Comme cela est illustré dans cette diapositive ici, le haut niveau de cellules d'activation consécutive de cellules NK qui en fait est observée chez les individus vietnamiens exposés mais non infectés en comparaison avec des individus séropositifs ou des donneurs de sang renforce cette idée de protection des cellules NK. Encore une fois, il faut plus de recherches sur l'immunité innée. Alors, l'espoir suivant par rapport aux vaccins thérapeutiques. Alors, les vaccins thérapeutiques visent à stimuler et restaurer les cellules des mémoires T et conséquemment mieux contrôler les réponses immunitaires chez les poulets. En plus, cette approche, ça donne de l'information sur les protections connecte. Cette approche était d'abord utilisée sur les modèles PREMED chez les humains. Plus de 15 essais ont été faits pour évaluer la capacité de l'immunisation pour contrôler la réplication du virus, même après des données mixtes ont été obtenues. Mais de façon encourageante, particulièrement chez les patients vaccinés, et des diapositives suivantes illustrent ces données encourageantes. ANRS 093 était fait sur les patients qui devaient recevoir either art alone ou combiné avec une stratégie de vaccin basée sur une lithopeptide suivie par 3 cycles d'interleukine 3. L'impact de la vaccination a été évalué en arrêtant le cœur pour les gens qui ont fait l'impact de la vaccination a été évalué par avec ou sans antirétroviraux. À la fin, 90 personnes des patients contrôlés n'ont pas satisfait le critère pour la reprise de l'ART. Cela montre qu'une réduction significative peut être obtenue par vaccination thérapeutique et il est valable de remarquer que c'est fortement associé à la réponse des cellules T et des CD4 à la vaccination. J'aimerais aussi, en plus de cet espoir scientifique pour l'avenir, ajouter un autre espoir. Le concept de transparence et d'engagement amélioré par la collaboration et la coopération en 2003 dans le cadre de l'entreprise du vaccin VIH mondial. Depuis lors, un plan scientifique a été rédigé par plus d'une centaine de scientifiques de 15 pays avec 5 priorités qui sont listées sur cette diapositive. Cet engagement est également par augmenter les ressources et d'avoir une collaboration efficace entre les chercheurs. Depuis 2005, les membres de l'entreprise des vaccins VIH mondial ont mis en œuvre de nouvelles initiatives qui sont résumées sur cette diapositive. Cette initiative, tout d'abord, est d'abord le centre de l'immunologie de vaccination VIH-SIDA. Après, on a la collaboration par la Fondation Gates pour les recherches, des centres multicentres de recherche et un consortium et d'autres initiatives ont également été pris en place par AVI. Tout cela est listé sur cette diapositive. Alors, actions et recommandations faites par l'initiative mondiale sont présentées dans le document provisoire de 2006 sur le vaccin contre le sida de AVI. Alors, une justification des efforts de conception du vaccin, les collaborations scientifiques et l'empirisme, et bien sûr la construction de capacités, cela demande un accès d'une infrastructure de développement des vaccins. Il faut une mobilisation politique et un engagement à tous les niveaux, du financement à long terme, traiter les questions politiques dès maintenant et gérer les attentes, la gestion des attentes. J'aimerais maintenant vous donner un petit peu un message de conclusion à la fin de cette présentation. Nous devons garder à l'esprit que les stratégies futures de vaccins pour le VIH doivent être basées sur des concepts scientifiques nouveaux et créatifs. Le candidat futur doit cibler à la fois l'infection et les signaux pathogènes très précoces en réponse au VIH, en particulier au niveau des sites effecteurs, y compris les muqueuses. Le candidat futur pourra peut-être pas protéger contre l'infection, mais devra au moins être capable de protéger contre la pathogénicité du VIH et particulièrement contre le sida. Nous devons peut-être combiner la vaccination avec des thérapies nouvelles ou pourquoi pas mener un auto-silencement génétique. J'aimerais conclure que la recherche pour le vaccin est dans le secteur où nous attendons avec les plus grands progrès de la recherche du VIH. Cela devrait se faire durant ce siècle. Mais il y a encore beaucoup à faire avant de savoir si ou un jour nous pourrons fournir un vaccin. Nous devons garder à l'esprit qu'il y a toujours de l'espoir dans la science et n'oubliez jamais que le meilleur espoir de contrôler le VIH-SIDA est de considérer tous les progrès dans la science à la fois en termes de prévention et de traitement et comme approche intégrée aux soins. C'est pour cela qu'il est si important de remplir les carences scientifiques pour les découvertes pour un vaccin et comme ça l'est pour combler les carences en financement. Thank you for your excellent presentation ce matin et pour nous donner de l'espoir et aussi nous fournir un réalisme par rapport au vaccin du VIH. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Canada et à Toronto. Nous sommes fiers d'organiser cette conférence et de vous amener le meilleur de la science par rapport à la prévention et aussi le meilleur des efforts communautaires pour combattre la maladie. Les pays qui ont réussi pour enrayer l'épidémie du sida chez les toxicomanes ont été ceux qui ont eu des hommes et des femmes qui ont le courage de gérer la question, de mettre en place des programmes d'échange de seringues et de superviser dans les sites d'injection. Même quand ce n'était pas encore approuvé au niveau juridique, le docteur Alex Fordac est un visionnaire, médecin visionnaire dans ce domaine. Le docteur Rodak, que j'ai l'honneur de présenter ce matin, est directeur des services de traitement de l'alcoolisme à Sydney en Australie, un poste qu'il occupe depuis 1982. Ses responsabilités principales sont les soins de personnes ayant des toxicomanes par rapport à l'alcool et aux drogues. Il enseigne également, il est chercheur et il a publié de nombreux documents, plus de 200 documents scientifiques. Il a été un chef de file dans ce domaine de la recherche.
Il est connu pour avoir établi le premier programme d'échange d'aiguilles de seringues en Australie et d'avoir mis sur pied un centre d'injection sous supervision médicale avant qu'il ne soit juridiquement accepté. Le Dr. Wormack a été président de l'Association de la réduction des torts et puis le président de la Fondation pour la réforme de la loi australienne. Il a travaillé sur le moyen de contrôler le VIH parmi les utilisateurs de drogues injectables en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Il a travaillé également en collaboration avec l'ONU-SIDA. Le Dr. Bonac a été très impliqué dans la recherche sur le système actuel. J'ai le plaisir d'accorder le Dr. Bonac. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais répondre aux questions suivantes. Premièrement, quelle est l'importance à l'échelle mondiale, du VIH parmi les utilisateurs de drogues injectables? Qu'est-ce qui peut être fait pour contrôler le VIH parmi cette population? Qu'est-ce qu'entend-on par la réduction des torts? Quel est l'état actuel de la situation et fait-on ce qu'on doit faire? Sixièmement, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qui devrait être fait? Et quelles sont les prochaines étapes? Et finalement, je terminerai. Quelle est l'importance à l'échelle mondiale du VIH parmi les utilisateurs, les consommateurs de drogues injectables? 30% des infections VIH ont lieu à l'extérieur de l'Afrique subsaharienne et la proportion augmente. 30% de ces infections à l'extérieur de l'Afrique subsaharienne implique maintenant des utilisateurs de drogues injectables. Et cette proportion également augmente. Ceci veut dire que les consommateurs de drogues injectables représentent maintenant 10% de toutes les nouvelles infections du VIH dans le monde. Et cette proportion augmente également. Dans au moins une demi-douzaine de pays, l'épidémie a commencé parmi les consommateurs de drogues injectables dans des situations où des détenus échangeaient de l'équipement d'injection. Donc, ces injections sont un problème très important lorsqu'il s'agit de contrôler la propagation du VIH dans la collectivité. L'utilisation des drogues injectables a été rapportée dans 144 pays à l'échelle mondiale. Dans 128 de ces 144 pays, le VIH a été rapporté parmi ces populations. Plus de 41 pays ont rapporté que la prévalence du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables est au-delà de 5%. Le roulement mondial des drogues illicites a été évalué par le gouvernement américain d'être de l'ordre de 322 milliards par année, alors qu'un rapport présenté au cabinet Blair ou en Grande-Bretagne estime qu'il y a un roulement de profit de 26 à 58% de drogues illicites. La consommation des drogues injectables se répand, et puis au moins 10 pays en Afrique ont rapporté une telle utilisation. Comment les pays peuvent-ils contrôler le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables? Premièrement, ils ont besoin d'être éduqués sur le VIH. Cette éducation doit être très simple, explicite, basée sur les pairs et factuelle. Ensuite, les programmes d'échange de seringues et d'aiguilles sont nécessaires pour que l'équipement d'injection stérilisé soit disponible et utilisé, et aussi pour s'assurer que l'équipement déjà utilisé sera moins facilement accessible. Le temps pris pour que on doit réduire le temps pendant lequel les aiguilles et les seringues circulent parmi cette communauté. Il faut également pouvoir offrir des traitements de substitution tels que la méthadone et la buprédorphine. Finalement, le développement intervention communautaire doit être évoqué pour qu'on puisse intégrer les consommateurs de drogues injectables elles-mêmes dans le travail de prévention. On appelle cet ensemble de mesures la réduction des préjudices. Et ceci va améliorer leur adhérence au traitement antirétroviral. La réduction des préjudices est une des interventions les plus efficaces dans le répertoire de lutte contre le VIH-SIDA. Elle est nécessaire à la fois dans la collectivité et dans des milieux fermés, dans des milieux tels que les centres de détention et les prisons. Le débat scientifique est maintenant terminé. La réduction des préjudices s'est avérée efficace et a considérablement réduit le nombre de nouvelles infections. Il n'y a aucun effet secondaire sérieux, comme par exemple l'utilisation plus grande des drogues. Et puis, c'est également une solution parfaitement économiquement rationnelle. Alors, les preuves abondent. La réduction des préjudices a évité des épidémies de VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans certains pays et a permis de contrôler cette épidémie dans d'autres pays. Plus tôt on intervient, plus tôt on applique cette méthode, meilleurs sont les résultats. La réduction des préjudices veut dire qu'il faut réduire les conséquences et les problèmes de santé économique et sociaux qui résultent de l'utilisation de la drogue. C'est encore plus important que de réduire la consommation de la drogue. Cela veut dire qu'il est plus efficace de se fixer des objectifs suboptimaux, mais néanmoins réalistes, que de se fixer des buts utopiques et irréalisables. Cela veut dire que 80% de quelque chose est mieux que 100% de rien. Quel est l'état actuel de la réduction des préjudices? La réduction des préjudices est acceptée maintenant par la plupart des grandes agences des Nations Unies, y compris l'OMS, l'ONU-SIDA, et une majorité de plus en plus grande dans le bureau des Nations Unies sur les drogues et le crime, par l'UNICEF, par la Banque mondiale, de même que par les fédérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de même que par plusieurs pays en Europe, en Asie, en Océanie, et des pays comme le Canada et le Brésil. Le nombre d'organismes et de pays qui acceptent la réduction des préjudices augmente régulièrement. La réduction des préjudices, par contre, est toujours refusée par le International Narcotics Control Board des États-Unis et quelques autres pays. Mais le nombre de pays et d'organismes qui refusent la méthode de la réduction des préjudices diminue chaque année. À une réunion cruciale du Conseil de coordination de l'ONU-SIDA en juin 2005, on a finalisé la politique de prévention du VIH. 21 pays voulait inclure une référence à la réduction des préjudices et au programme d'échange de seringues et des traitements substitutifs. C'est le pays, les États-Unis d'Amérique, ont rejeté l'inclusion de ces références. Heureusement, la santé publique et le bon sens ont prévalu. Les 25 membres de l'Union européenne ont maintenant des programmes de contrôle des seringues et des méthadones et des programmes de seringues et d'aiguilles et puis des programmes de méthadones. Les 25 pays de l'Europe centrale, de l'Asie centrale, ont maintenant des programmes d'échange de seringues. Et dans les pays les plus populaires comme la Chine, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, la Birmanie, le Taïwan et l'Inde, ces programmes sont également acceptés. On peut ajouter d'ailleurs le Bangladesh et le Pakistan. Chaque année, un nouveau pays accepte la réduction des préjudices. Mais aucun pays qui a initié un programme de réduction des préjudices n'a jamais regretté sa décision pour finalement cesser. Voici maintenant les traitements de substitution offerts pour les consommateurs de l'héroïne. En rouge, il y a des pays qui offrent un traitement au méthadone. 45 pays en bleu offrent un programme de buprédorphine et d'autres pays en vert offrent les deux. Cette carte montre que 65 pays en vert offrent au moins un programme de contrôle des seringues et puis 10 pays en rouge n'ont aucun programme. Il y a 5 ans, ces deux cartes auraient montré un tableau très différent. Si on accepte que l'injection de drogue est une grande partie de la pandémie du sida, et si on accepte qu'on sait depuis 15 ans comment la contrôler, est-ce qu'on fait ce qu'on devrait faire? Il y a eu une grande augmentation dans l'acceptation de la réduction des préjudices à l'échelle mondiale au cours des 5 dernières années. La mise en œuvre des programmes de réduction des préjudices ont été initiées dans plusieurs pays, mais la couverture reste toujours très faible, particulièrement là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en Europe centrale et de l'Est, en Asie de l'Est, du Sud-Est, en Asie centrale et en Asie du Sud. Et la couverture dans le milieu carcéral est encore plus faible. Quels sont les obstacles importants à cette mise en œuvre? Eh bien, une dépendance excessive à l'égard des opérations policières de contrôle des drogues. Sam Friedman et ses collègues ont récemment démontré cela dans une étude effectuée dans 89 grandes villes américaines. Ils ont estimé le nombre de consommateurs de drogues injectables par tête d'habitant et la séroprévalence du VIH parmi ces populations. Ils ont ensuite comparé ces données à trois les mesures légales: les arrestations pour consommation possible de drogue par tête d'habitant, le nombre d'employés policiers par tête d'habitant et les dépenses carcérales par tête d'habitant. Ils ont découvert qu'aucune mesure légale, ni les arrestations, ni le nombre d'employés, ni les dépenses sur le milieu carcéral ne correspondaient au nombre de consommateurs de drogue injectables par tête d'habitant. Mais lorsqu'on examinait, mais plus ces trois facteurs intervenaient dans une ville particulière, plus on avait un grand nombre de consommateurs de drogues injectables. Les auteurs ont conclu qu'il y avait que le nombre de mesures policières n'avait que peu d'effet sur la consommation de drogue. Et en fait, qu'elle avait peut-être tendance à favoriser la propagation du VIH-SIDA parmi les populations à risque. Friedman et ses collègues ont décidé qu'on devait considérer des méthodes alternatives pour maintenir l'ordre social. Il y a eu des avertissements semblables dans le passé. En 1976, 5 ans avant l'apparition officielle du sida, le docteur Joe Westermeyer a étudié les effets de l'interdiction de la consommation d'opium dans 3 pays asiatiques. Il a découvert que 10 ans après avoir interdit la consommation d'opium parmi les hommes âgés, l'opium est disparu, mais il a été remplacé par l'injection d'héroïne parmi les jeunes hommes sexuellement actifs. Westermeyer a appelé cela l'effet pro-héroïne des politiques anti-opium. Lorsqu'on pense aujourd'hui à la guerre contre la drogue, on doit se demander si les politiques anti-héroïne d'aujourd'hui ne font pas indirectement des effets pro-VIH. Il y a beaucoup d'autres obstacles à la réduction des préjudices, y compris la stigmatisation extrême des consommateurs de drogue qui est empirée lorsqu'on augmente la répression. Les autorités dans plusieurs pays, à l'ère du VIH, sont toujours en train de battre la dernière guerre, la guerre contre la drogue. Mais comme Donald Rumsfeld, le secrétaire de la Défense américain, l'a dit en 2001, si la demande persiste, elle trouvera un moyen de parvenir à ceux qui la veulent. Et ça ne vient pas de la Colombie, ça viendra d'ailleurs. Les États-Unis d'Amérique sont toujours en tête de l'opposition mondiale à la réduction des préjudices. Pourtant, ils ont une incidence de sida de 14,7 par 100 000 habitants, le taux le plus élevé du monde industrialisé, et un taux 5 fois plus élevé que le pays avec le deuxième plus haut niveau d'incidence dans le monde industrialisé. Et au moins 25% des cas de sida aux États-Unis sont attribués à la consommation de drogues injectables. Alors voilà le résultat de santé publique d'une politique nationale d'opposition rigoureuse à la réduction des préjudices. Nous menons trop de batailles inutiles. La commission de contrôle des narcotiques a tenté depuis 1995 de déplacer la buprénorphine en fonction du traité sur la drogue de 1961. Et ceci mène constamment à la réduction des préjudices. La France, en 2006, tente de reclasser la buprénorphine comme un narcotique. même sur la buprenorphine avec les programmes de seringue, ont permis de contrôler le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables en France. L'Europe de l'Ouest, le Japon et les États-Unis dépensent 350 millions de dollars américains par année sur la protection agricole. Mais quelles options offre-t-on pour les producteurs de drogue, pour les pays producteurs de drogue? Si l'Afghanistan ne peut pas vendre des patates et des oignons à l'Europe à un prix raisonnable, elle vendra de l'héroïne. Si les pays des Antilles... Si les pays des Antilles ne peuvent pas vendre des bananes aux États-Unis d'Amérique à un prix raisonnable, ils vont vendre de la cocaïne. Des politiques commerciales équitables font partie de la solution à laquelle il faut songer pour contrôler le VIH. Pourquoi certaines personnes s'opposent-elles à la réduction des préjudices? Ce débat représente un conflit entre deux philosophies. D'une part, les conséquentialistes qui évaluent les interventions en examinant les effets nets et les bénéfices nets et les coûts. Ensuite, les non-conséquentialistes évaluent les interventions parce qu'ils considèrent comme étant leur valeur morale. Ils sont plus intéressés à envoyer le bon message qu'aux conséquences de leurs actions. Mais quelle est la moralité lorsqu'on ignore des preuves scientifiques et qu'on condamne des générations futures dans certains pays à une présence endémique du VIH? Quelles sont les prochaines étapes? Premièrement, il faut reconnaître que les drogues sont principalement un problème de santé et un problème social. Il faudra toujours une certaine répression, mais c'est un support secondaire. Ça ne devrait pas être la réaction ou la réponse principale. Cela veut dire que le financement pour des mesures de santé doit être élevé au même niveau que l'exécution de la loi. Il faut une planification inclusive, toutes les parties intéressées doivent être impliquées, y compris les forces de l'ordre et y compris les consommateurs de drogues injectables. Il faut élargir la couverture des stratégies de réduction des préjudices à une échelle nécessaire pour contrôler l'épidémie. C'est maintenant la principale priorité dans la plupart des pays. Ceci veut dire que la politique doit être basée sur la science et les droits de la personne, à moins que la politique soit basée à la fois sur la science et sur le respect des droits de la personne des consommateurs de drogues injectables, on ne contrôlera jamais le VIH dans cette population d'importance critique. Cela veut dire que la communauté en général sera condamnée pour des générations à vivre avec des prévalences élevées de VIH. Dans certains pays, le débat sur la réduction des préjudices n'a pas encore été gagné. Il doit être gagné rapidement. On doit prévenir le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans cette où l'épidémie en est encore à ses débuts et où beaucoup de misères pourraient être évitées dans une région extrêmement troublée. Et on doit développer des traitements de substitution efficaces pour les gens qui injectent de la cocaïne ou des amphétamines. Des programmes semblables à celui du méthadrone qu'on offre aux injecteurs d'héroïne. Donc, pour résumer, premièrement, le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables est une partie importante de l'épidémie mondiale. La réduction des préjudices est une méthode efficace, sûre et rentable pour contrôler cette partie de l'épidémie. Troisièmement, le débat scientifique est maintenant terminé. Quatre, de plus en plus de pays et d'agences acceptent la réduction des préjudices. La réduction des préjudices est maintenant le pilier principal international, alors que l'approche de lutte contre la drogue est appuyée par une minorité décroissante. 5. Bien que les choses s'améliorent, la couverture des programmes dans la plupart des parties du monde reste toujours faible. L'expansion de ces programmes est maintenant le défi principal auquel nous faisons face dans la réduction des préjudices. La couverture de la réduction des préjudices est encore plus faible dans les prisons. Une dépendance excessive par rapport à la répression est un des principaux obstacles. Conséquemment, une approche plus équilibrée par rapport à la répression et par rapport à l'application de la loi est urgemment nécessaire. 9. Il faut reconnaître que les drogues sont principalement un problème de santé. Et 10. Les choix sont soit de contrôler les infections du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables ou d'envoyer ce que certains considèrent comme étant le bon message. Nous ne pouvons pas avoir les deux à la fois. Finalement, mesdames et messieurs, pensons un peu, demandons-nous
qui est celui qui prend les risques? Est-ce le consommateur de drogue injectable, souvent pauvre, souvent sans instruction, sans emploi, vivant dans un pays en voie de développement? Il ne fait aucun doute que ce consommateur de drogue injectable prenne des risques. Mais j'aimerais vous suggérer qu'il prenne un risque qui n'est pas du tout à l'échelle de ceux qui prennent des vrais risques. Les décideurs politiques, généralement bien instruits, puissants, qui travaillent dans un beau bureau et qui agissent souvent à l'encontre de toutes sortes de preuves scientifiques. Encore plus, qui dénient, dans un état de déni obscène et dangereux. Il y a 8 ans, le Bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime a convoqué une grosse conférence sur la drogue dans les bureaux des Nations Unies à New York, intitulée « Un monde sans drogue ». C'est possible. Et il y a trois ans, le même organisme prétendait qu'on faisait des progrès encourageants pour atteindre des buts encore distants, c'est-à-dire celui d'un monde sans drogue. Si on veut contrôler le VIH parmi les consommateurs de drogue injectable, il nous faut des politiques basées sur le monde réel, non pas sur des fantasmes. Tout comme il nous faut un comportement cohérent et régulier de la part des donateurs, il faut que les citoyens des Nations Unies élaborent une seule position sur la drogue, la réduction des préjudices. Et un document qui sera signé par tous les organismes de réduction des préjudices demande justement une telle position et ce document sera publié à la fin de cette séance. Merci beaucoup.
Merci, docteur.
Pour terminer, j'aimerais remercier tous les conférenciers pour avoir si éloquemment présenté un aperçu des approches et des technologies éprouvées qui nous sont disponibles aujourd'hui. Et en fait, on a fait beaucoup de chemin depuis les premiers jours où très peu de choses ne nous étaient disponibles. Mais il est clair qu'on doit avoir recours à une approche multisectorielle et si on veut continuer notre lutte contre le VIH-SIDA. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.